être 17h au studio Kalangou, tout de suite le journal en français dans une présentation de Rafika Taher. À la une ce 11 mars 2022, le prix des produits alimentaires connaissent ces derniers temps à Zinder une hausse exponentielle. Les consommateurs dénoncent et interpellent les autorités à la veille du Ramadan. À suivre les consommateurs dans ce journal. Les femmes activistes internautes, souvent cibles de certains stéréotypes. Une ONG a organisé une conférence pour soutenir ces femmes dans la quête de leurs droits. Les détails dans un instant. L'artisanat du Niger, un pourvoyeur de devises et d'emplois, est dans une mauvaise passe. Comment l'améliorer? Ali Mohamed Rabiou du village artisanal de Wadata à Niamey explique dans la partie magazine. Comme annoncé dans les titres, on assiste à une flambée des prix des produits de première nécessité à Zinder ces derniers temps. Une situation que dénoncent les consommateurs tout en se questionnant sur les raisons de cette augmentation. El Hadj Nassirou Abdou Dizaki interpelle les autorités pour opérer un contrôle sur les prix, surtout à la veille du mois de Ramadan. Il est au micro de Mustapha Mamansani.
Il n'y a pas de cela une à deux semaines que j'ai acheté les 5 litres d'huile à 5 500 francs CFA. Le carton de macaroni à 5 750. Les commerçants ont augmenté 2 250 sur le bidon d'huile de 5 litres. 2 500 sur le macaroni. Que ces commerçants sortent pour nous éclairer par rapport au mil et au maïs. On ne procède plus au dédouanement de ces produits. Le prix du sac de mil à 38 000 francs. Le maïs à 36 000 francs. Mais au juste, leur a-t-il été augmenté quelque chose? D'agadez de macaroni et la farine de blé, nous transportons la tonne à 25 000 francs. Ils ont réduit ça à 20 000 francs. Maintenant, ils payent seulement 15 000 francs. Ils ont caché tout. Et ce n'est pas seulement les revendeurs, même les grossistes. Ils se mirent à l'arrivée de la Ramadan pour vendre chèrement ces produits. Nous appelons l'État à investiguer ces commerçants. Même si le dédouanement a été augmenté, comment vont-ils rehausser le prix du macaroni à 7 500 francs CFA alors que même un franc n'a pas été augmenté?
Au Niger, la gestion des ordures ménagères dans les grandes villes reste un défi pour les municipalités, surtout pour ceux qui concernent les sacs plastiques. Certes, des efforts sont faits par l'État, les ONG et la société civile, mais des cas d'incivisme sont souvent relevés. Comment mettre fin à l'incivisme des populations? Écoutons les avis de quelques citoyens recueillis par Zainabou Abdou.
Dans un premier temps, comprendre que ça détruit l'environnement en général. Le fait de prendre quelque chose et jeter les plastiques, ça nuit aussi à la santé. Parce que quand l'environnement est pollué, ça peut avoir des impacts sur la santé.
Le problème, c'est de nous-mêmes, c'est de la population que ça vient. Du moment où quand tu viens dans un endroit et que tu vois l'endroit est propre, dès que tu jettes un sachet et quelqu'un te gronde pour te dire de ramasser ce sachet, je crois qu'avec le temps, on aura à maîtriser tout cela. Et des fois, c'est nous-mêmes, hein, ce sont même les gens même de l'endroit qui boivent de l'eau et puis nous salissons l'endroit de nous-mêmes, par nous-mêmes. Et après, c'est pour encore revenir insulter l'État pour dire que voilà, le Niger est salé et que l'État ne fait rien.
Je pense que ce n'est pas normal, on n'est pas des petits-enfants.
Certaines femmes nigériennes qui défendent les droits des femmes sur des plateformes digitales témoignent qu'elles subissent insultes, harcèlement et moqueries sur la toile. Ce qui a amené l'ONG New Challenge à organiser une conférence hier avec pour thème « Quel est le rôle de l'internaute dans la lutte contre les stéréotypes à l'endroit de la femme ?» Olivier Asokbavi y était, il a rencontré certaines participantes, on les écoute.
Oui, ça me touche particulièrement moi, parce qu'au début, certes, on dit la lutte. Au début, moi-même, en tant que telle, j'avais une haine envers les hommes, parce que je me dis tout ce qui était en train d'arriver, c'était à cause des hommes qui exercent des choses sur les femmes, te dis que la femme ne doit pas faire ceci, la femme ne doit pas faire cela. Mais en fait, j'ai compris que ce n'est pas tous les hommes, en fait. Il y a ceux qui sont là pour aider les femmes. Et il y a d'autres femmes qui sont là pour pousser ces femmes-là aussi à être mauvaises, pour que les gens puissent parler mal d'eux.
Personnellement, je suis touchée parce que concernant les stéréotypes, vraiment, il y a un acharnement sur les réseaux sociaux et nous voulons que ça cesse vraiment. Nous voulons aller de l'avant, enlever nos ailes, montrer qui nous sommes comme femmes, mais vraiment, il y a un blocage que nous voulons que ça cesse vraiment.
Au Sahel, les changements climatiques exigent une réorientation des sources d'énergie fossile vers les énergies renouvelables. Cela n'est plus une question de divergence selon Somme Sobrufo-Euline du ministère burkinabé de l'Environnement. Seulement, le problème du coût des équipements très élevé freine l'adaptabilité de ce système dans nos sociétés. Propos recueillis par Ali Tagissia.
avec le fonds vert climat, avec toutes ces ressources financières que les pays développés qui polluent paient, il va falloir que nos États puissent avoir de vrais projets, des projets structurants pour pouvoir développer ces énergies. Maintenant, on peut le développer, mais qu'est-ce qui nous manque? C'est la compétence. Il faut déjà commencer à avoir des écoles de formation pour ces énergies renouvelables. Il faut ensuite créer, moi je dirais, des usines. Parce que c'est bien d'avoir les plaques solaires, mais ça nous vient d'ailleurs et nous faisons juste l'assemblage. Vraiment, nous, notre plaidoyer, c'est que nos États aient de vrais projets structurants. C'est impératif. Deuxièmement, il faut les coûts. Je vous donne à tout casser, quelqu'un qui veut un congélateur de 300 litres qui va fonctionner avec du solaire 24 heures sur 24, il lui faut débourser 1 500 000. Donc, si les États commencent déjà à former nos jeunes qui vont s'intéresser à ces énergies renouvelables et subventionner les équipements, c'est bien.
L'examen du schéma d'aménagement foncier des régions de Tillabéri et de Zinder au centre hier de la session extraordinaire du Conseil économique, social et culturel pour l'année 2022. Les schémas d'aménagement foncier constituent pour les régions un outil de planification majeur pour le développement, explique le rapporteur de la Commission développement rural et environnement du CESOG. Ali Loumoussa au micro de Mokhtar Hamadou.
Nous sommes en train de donner l'avis du CESOC par rapport au schéma d'aménagement foncier de la région de Zinder et de la région de Tillabéri. Il faut aussi rappeler qu'il y a eu déjà l'avis du CESOC par rapport au SAF de Maradi, donc par rapport au SAF de Dousso.
Quelle est l'importance du SAF?
Comme je l'ai dit, c'est vraiment le schéma d'aménagement foncier de toutes les régions. Par exemple, moi, si je suis de Dousso, que je puisse savoir tout ce que la région de Dousso comporte par rapport aux trucs agroforesteries, par rapport aux forêts, par rapport à la faune, par rapport à un certain nombre donc de ces choses naturelles. C'est pour cela qu'on prévoit ce schéma pour que ça soit en tout cas bien clair pour toute action dans la zone d'intervention. Nous passons à en dérouler le SAF pour voir les différentes parties et si elles ont été respectées dans l'élaboration. Parce que l'élaboration d'un SAF d'une région nécessite la collaboration de tout le monde, de tous les citoyens de la région.
Le centre de réinsertion des jeunes de Dakoro, région de Maradi, a été créé en 1952. Il portait jadis le nom du centre de rééducation de Dakoro, avec comme premier directeur Villemain Maurice Dimeibougé de l'administration coloniale. Ces dernières années, ce centre est confronté à de multiples problèmes relevés par le premier vice-président de l'Assemblée qui y était en visite la semaine passée. Kalla Hankuraou au micro de Adamu Umaru.
L'autre visite que j'ai effectuée, c'est au niveau du centre réinsertion des jeunes, qu'on appelait avant centre de rééducation de Dakoro. Malheureusement, c'est un centre qui est délaissé, même pas d'entretien. Les élèves qui sont là sont presque à l'abandon. Il y a des ateliers qui ont été construits à grands frais, mais faute d'équipement suffisant et d'enseignants, les enfants n'apprennent pas grand-chose. Tout juste, ils font quelques jardinages à côté, parce que là, on n'a pas besoin de technologie. Et c'est dommage, j'ai vu ces enfants qui étaient très courageux, qui étaient très intéressés par l'apprentissage des métiers. Et il faut que de ce côté-là, on puisse voir comment trouver des partenaires pour qu'ils puissent aider le centre à se relever et à offrir à tous ceux qu'on envoie ici une prise en charge de qualité afin que les raisons qui les ont amenés ici ne puissent plus exister quand ils sortent et qu'ils puissent se débrouiller d'eux-mêmes.
Le Niger est reconnu pour être un pays d'élevage. À côté de cet élevage des animaux, un autre a vu le jour mais très peu développé, contrairement à certains pays de la sous-région ouest africaine. Il s'agit de celui des lapins. Pourtant, c'est une activité jugée simple et rentable par les éleveurs, comme l'explique Baba Al-Mustapha, cuniculteur rencontré au salon de l'agriculture et de l'élevage à Niamey par Mokhtar Hamadou.
L'élevage du lapin ne comporte aucune contrainte, car son alimentation est simple. C'est seulement de la salade ou les restes de pâtes de mil ou de riz. Il lui faut surtout un bon espace, parce que les lapins creusent beaucoup. Tu peux mettre sous terre des canaris ou bétonner l'espace du dessous, c'est tout. C'est un animal qui ne tombe pas facilement malade. C'est en période de salaire seulement qu'ils ont quelques difficultés, qu'on peut circoncire avec certains médicaments spécifiques. L'élevage du lapin est très bénéfique car sa viande est la meilleure parmi les viandes d'animaux. Nous informons le public que son élevage n'est pas pénible. Il y a plusieurs types de lapins. Il y en a des grands et des petits qui sont ceux d'ici, mais qui ont la même alimentation.
En Super League nigérienne de football pour cette saison, après les rencontres jouées, voici le classement. L'AS Niger-Lek est en tête avec 52 points, suivi de l'AS Douane 42 points. L'Union sportive de la Gendarmerie nationale USGN occupe la troisième place. L'Olympique FC et le Sahel SC sont toujours dans la zone rouge où ils occupent respectivement la 13e et la 14e place. Pour la Coupe de la Confédération africaine, l'Union sportive de la Gendarmerie nationale USGN est en déplacement pour affronter l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire ce dimanche 13 mars. Le département de Tanout est situé dans le Damergou, région de Zender. Quelle est la signification du nom attribué à cette partie du Niger? Une équipe du studio Kalangou séjourne à Tanout et s'est intéressée à la question. El Hadj Hassan Katinka, notable au palais du chef de canton, explique l'origine du nom Tanout au micro de nos envoyés spéciaux Maman Ada et Ousmane Aboubakar.
Tanout vient de la langue tamashe. C'était à un moment où les Français avaient quitté Jaji Dolé à la recherche d'un point d'eau. Vous savez, Jaji Dolé n'a pas de point d'eau assez insuffisant. Pendant qu'il se déplaçait afin de trouver l'eau et d'y s'installer, au cours de cette exploration, ils ont rencontré un groupe de femmes tamashèques de retour d'une corvée d'eau avec des ânes chargées. Les Français les ont demandé « Où est-ce que vous avez trouvé cette Les femmes leur répondirent Tanous Ntada, autrement dit, là-bas où le sable contient de l'eau. Voilà l'origine du nom Tanout. Tanout, la nappe n'est pas profonde. Là où nous sommes, c'est ici que nous abreuvons nos chevaux. Il suffirait de creuser superficiellement, vous avez l'eau et le cheval s'abreuve là-bas, à la sortie, là où se trouve le grand baobab. C'est là-bas qu'il y a quelques puits.
Bienvenue dans la partie magazine de cette édition. Au Niger, selon les estimations disponibles, l'artisanat pèse près de 25% du produit intérieur brut du pays. Il emploie plus d'un million de personnes en générant plus de 100 milliards de francs CFA par an. Seulement une grande partie des artisans évolue dans l'informel. Alors, comment les amener dans le formel? Comment faire changer les habitudes? Comment faire progresser l'artisanat du Niger sur le plan international? Ali Mahamadou Rabiou, le secrétaire général du centre artisanal de Ouadata, répond aux question de Talata Abdoubahar.
L'artisan nigérien doit changer sa perception de l'artisan en tant que tel. Parce que l'artisanat nigérien est un secteur qui a beaucoup des illettrés, par exemple. D'où leur capacité de proposer des trucs d'envergure, sincèrement, est limitée. Pour pallier ici, moi je crois qu'il faut qu'il y ait beaucoup de formation, beaucoup de sensibilisation, même des artisans. Parce que l'artisan qui, par exemple, n'a jamais pensé une seule fois qu'il pouvait être grand dans son travail, si on ne le sensibilise pas, il va toujours rester sur les petits faits qu'il va faire pour pouvoir survivre.
Alors, comment le sensibiliser?
On le montre par schéma qu'il pouvait sortir du cadre des petits artisans là pour être grand un jour. Il faudrait qu'on l'amène à rêver grand.
Comment amener les partenaires à davantage d'investissements dans le secteur de l'artisanat?
Quand bien même qu'ils sont là et qu'ils veulent travailler avec les artisans, s'ils n'arrivent pas à avoir des données statistiques fiables en ce qui concerne votre travail, du coup la capacité de réponse à vos problèmes là, elle est limitée. Et donc maintenant comment on va faire? Il faudrait qu'on revienne maintenant, nous, derrière, avec ces artisans. On devait les apprendre à faire un livre comptable au niveau, à chacun, à son petit atelier. Et on en a besoin d'abord aussi une formation en gestion. Petite gestion, comptabilité là, petite comptabilité là, sincèrement, on en manque. Donc, on pouvait comptabiliser la rentabilité de l'artisanat facilement. Donc, on pouvait avoir la subvention, l'aide nécessaire en ce moment qu'on a besoin. Tant qu'il n'y a pas ça, celui qui a le moyen de vous aider ne sait pas sur quelle base il va vous aider en réalité.
Quelle est selon vous l'image de l'artisanat nigérien à l'international?
Tout le monde reconnaît qu'il y a du potentiel. Mais maintenant, il faudrait qu'on les amène maintenant à exploiter ce potentiel de la plus belle façon en réalité. Sinon, l'État, c'est lui l'échelle la plus grande parce qu'il a un grand rôle à jouer. Parce que les rôles diplomatiques, les rôles de négociation et autres là, vraiment, on les laisse à l'État. Mais maintenant, il faudrait que nous ici, dans des différentes structures de coopératives qu'on puisse avoir les moyens vraiment de faire la sensibilisation, de faire comprendre, de faire un travail vraiment de base avec les artisans d'abord.
Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi.